Une question qui a été sous l'Ancien Régime et au-delà, au cœur de la construction d'une image d'elle-même par la monarchie espagnole, c'est bien celle de son rapport à la catholicité, marquée par sa confiance dans la mission divine unique qui lui aurait échu. S'il est un penseur qui a fait de la réflexion sur cette même question le moteur de sa vision du monde et de l'élaboration d'un savoir spécifique sur les rapports régissant les relations entre communautés politiques dans ce monde, c'est bien Tommaso Campanella. Ce dominicain calabrais, né à Stille, un obscur bourg des montagnes escarpées de la pointe de la Botte, en 1568, est mort en 1639 dans un couvent parisien du faubourg Saint-Honoré, non loin des palais royaux et cardinalices. Au point que d'aucuns, en l'occurrence, je pense à Anthony Pagden, a pu affirmer, dans un raccourci saisissant, que le mage napolitain, la qualification est de Pagden, était bien le seul théoricien sérieux de l'Empire espagnol que les rois catholiques aient jamais eu à leur disposition. Peu importe que sur ce point, la proposition de Pagden soit quelque peu exagérée, c'est évident. Elle nous dit toutefois une chose essentielle, d'abord sur la vision de l'histoire de l'humanité propre à l'auteur dont je vous parle aujourd'hui, et en retour sur ce qui peut nourrir une telle conviction dans l'histoire espagnole, d'où au passage, d'ailleurs, un retour possible sur la provocation de Pagden, comme sur une idée qui est loin d'être totalement infondée. La conception spécifique du monde que construit Campanella se déploie au croisement de deux convictions. D'une part, le monde est appelé à s'unifier un jour ou l'autre, selon l'annonce du verset joannique, hein, Jean 10, 16. De l'autre, l'homme est libre de la façon et du moment dans lequel il peut ou non s'inscrire dans ce dessein divin, fatal. Dès lors, se structure l'illustration potentielle de deux temporalités contrastées au nom d'une articulation entre la volonté divine et le libre arbitre des hommes. À la longue durée fatale, répond le temps bref, anecdotique et ponctuel, si l'on s'en tient à une logique divine, de la politique trop humaine et encore plus imprévisible. Le point de composition entre ces deux tensions apparemment contradictoires réside dans le fait de considérer qu'une fois admise la place de l'unité comme horizon, ce qui suppose d'ailleurs que justement, en tant que telle, sa réalisation finale échappe aux hommes, il faut chronologiquement concentrer la réflexion sur l'unification comme processus, un processus nécessairement lacunaire, toujours inachevé, comme le sont toutes les actions humaines. Comment concilier la connaissance vétéro et néo-testamentaire, socle de tout savoir, la haine d'Aristote et de Machiavel, et la liberté historique des hommes à intervenir dans leur histoire, sinon à la faire. Telles sont les questions que Campanella pose et se pose, et qu'il pose et se pose notamment en se fondant d'abord sur le cas espagnol. Certes, Campanella considère que, selon les mots de Germana Ernst, la personne la plus importante des études campanelliennes aujourd'hui vivante, qui s'est notamment occupée des éditions et des rééditions des textes de Campanella dans les 20 dernières années, et qui écrit des textes importants là-dessus, et notamment, je vous signale, pour ceux que ça intéresse, une très belle biographie intellectuelle de Campanella, qui a été traduite récemment d'italien en français aux belles lettres. Donc, Germana Ernst disait que pour comprendre la courbe de l'évolution d'une formation politique déterminée, il faut mettre en évidence quel est le correspondant biblique auquel il convient de la rapporter. Hein. Il dit que c'est ça le fondement de la pensée campanilienne. Pourtant, derrière la posture prophétique peut émerger une analyse de la conjoncture très pragmatique, qu'elle soit ou non erronée et qu'elle soit ou non intégrée dans un système d'explication de type figural. On peut voir ainsi émerger, dans la logique campanellienne, deux histoires croisées, deux histoires contrastées, comme je le disais, dont les territoires réels, les territoires du monde, sont l'espace de déploiement et d'incarnation, et dont la poésie, hein, il faut jamais oublier que le texte pour lequel Campanella est le plus connu, le seul texte de Campanella qui soit véritablement connu, donc La Cité du Soleil, est sous-titré Dialogue poétique. C'est curieux pour un dialogue dont la première caractéristique ne semble pas d'être poétique, justement. Donc, je disais, donc, la poésie est le lieu textuel de conjonction et le régime de vérité dominant, hein, de conjonction de ces deux histoires, le régime de vérité dominant au nom de l'exigence anti-tyrannique sur le plan politique et de l'injonction anti-sophistique sur le plan du savoir, sur le plan cognitif. La réalisation de l'unité johannique que j'évoquais tout à l'heure se mesure donc à l'aune d'un processus complexe d'unification impériale de l'œcumène. Comme processus d'abord unilatéral, de façon assez classique, hein, la conquête, pour simplifier les choses, puis comme processus polysynodal, mais dans une autre utilisation de ces adjectifs que celle qu'en font les historiens de l'Empire espagnol, qu'ils soient anglo-américains ou espagnols d'ailleurs, hein, avec ce que j'appellerais une déclinaison des empires au pluriel, hein, avec un S. Partons d'abord de la logique du texte sur lequel s'appuieront une bonne partie de mes réflexions, et qui a juste titre resté comme un texte fondamental pour réfléchir justement sur ce que peut être l'Empire espagnol, et qui s'appelle « La monarchie d'Espagne ». Hein, c'est ce texte-là qui est sorti donc en édition bilingue contemporaine en 1996 aux Presses universitaires de France, dans une édition préparée par German Heims, justement, hein, qui est associé dans cette édition à un autre texte intitulé « Monarchie de France », sur lequel je reviendrai aussi, mais qui est un texte qui n'existe pas. C'est-à-dire que la monarchie d'Espagne existe, c'est-à-dire que Campanelle a écrit un texte qui s'appelle « Monarchie d'Espagne », il n'a jamais écrit de texte qui s'appelle « Monarchie de France ». En revanche, il a écrit une série de textes, notamment dans les années 30 du XVIIe siècle, qui, mis ensemble, ont donné lieu à un texte symétrique de la monarchie d'Espagne que les éditeurs contemporains ont cru bon d'appeler « Monarchie de France », hein, pour justement créer cette symétrie, comme s'il y avait effectivement ici la mise en place, une sorte de passage de témoin de l'Espagne à la France, selon que l'on parle du premier texte achevé en 1598 ou des autres textes qui, eux, seront écrits 30 à 35 ans plus tard. Donc, partons d'abord de cette monarchie d'Espagne achevée en 1598. La date a son importance, hein, puisque 1598, nous sommes un an avant la célèbre, enfin, pour les gens qui s'intéressent à ces questions-là tout au moins, la célèbre conjuration de Calabre qui va conduire Campanelle en prison pendant 30 ans de sa vie. Donc ça va marquer son existence, hein. Cet homme est un homme qui va écrire la plus grande partie de son œuvre en prison, à Naples, hein, et notamment après cette malheureuse conjuration de 1599, dont il aurait été, hein, les choses sont discutées, mais dont il aurait été un des meneurs. Donc nous sommes un an avant cette conjuration, qui est une conjuration contre le pouvoir espagnol en place dans le royaume de Naples, hein, et un an avant, cet homme, ce même homme, donc écrit une monarchie d'Espagne qui est une théorisation volontariste du destin, justement, de la monarchie espagnole, du destin impérial de la monarchie espagnole. Ce qui l'intéresse ici, c'est évidemment la question de la monarchie comme question de l'unité, la monarchie comme question impériale. Avec la monarchie du Messie, la monarchie d'Espagne est la seule véritable monarchie qui a été théorisée par Campanelle. Hein, si on accepte l'idée que le terme de monarchie de France est un titre apocryphe. Hein. La monarchie du Messie a été aussi publiée en français, je vous le signale, hein, toujours aux Presses universitaires de France et toujours dans une édition préparée par German Heims, un peu plus tard, au début des années 2000. Hein. Et c'est un texte qui est un texte, comme souvent chez Campanelle, qui a été écrit et réécrit plusieurs fois, puisque cet homme qui a eu une vie un peu complexe, on va dire, bouleversée, a vu à plusieurs reprises ses manuscrits lui être pris. Il était donc conduit parfois à réécrire des textes qu'il avait perdus. Du coup, la monarchie du Messie est en fait un texte complexe qui va être publié en 1630, mais dont les premières rédactions remontent au même moment que la monarchie d'Espagne. Les deux textes donc sont liés, si je puis dire. Donc, si on revient à la monarchie d'Espagne, comme je disais, je voudrais remarquer d'emblée trois points. Le premier relève du plan de l'ouvrage, le deuxième est lié à la chronologie de la rédaction, et le troisième à la diffusion du texte. Alors, premier point, le plan de l'ouvrage. Si vous prenez cet ouvrage sur la monarchie d'Espagne, vous apercevez que vous pouvez distinguer dans cet ouvrage trois blocs. Un bloc que j'appellerais principiel, hein, qui traite de la vision du monde et de l'histoire, des trois causes qui peuvent définir justement, pour reprendre un des termes du titre de cette conférence, un destin. Hein, donc les trois termes qui définissent un destin, c'est Dieu, la prudence et ce qu'il appelle l'opportunita, qui est mal traduit en français par l'opportunité et qui relève beaucoup plus de ce qu'on pourrait appeler de façon machiavélienne l'occasion. Hein. Donc, ces trois termes concourent à définir ce qui est un destin, un fato. Hein. Et dans ce premier bloc, qui va du chapitre 1 au chapitre 8, donc on a la mise en place, en gros, de ce socle cognitif pour comprendre l'histoire du monde, dans lequel est mis en évidence notamment le rôle spécifique dévolu au pape, au souverain pontife, comme incarnation de l'unité, justement. Je reviendrai là-dessus. Deuxième bloc de la monarchie d'Espagne, du chapitre 9 au chapitre 18, qui traite de ce que l'on pourrait appeler les conditions d'exercice du pouvoir d'État. Et puis, troisième point, troisième bloc, du chapitre 19 à la fin, donc au chapitre 32, qui me semble extrêmement intéressant, parce que effectivement, c'est un peu le point d'arrivée du raisonnement, on a une déclinaison des territoires du monde, avec un traitement spécifique dans chacun des chapitres, des territoires du monde. Vous avez successivement l'Espagne, l'Italie, la Sicile et la Sardaigne, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, la Pologne, la Moscovie, la Transylvanie, la Flandre ou Basse-Allemagne, l'Afrique, la Perse et le Katai, le Grand Turc et son empire, l'autre hémisphère, c'est-à-dire le Nouveau Monde, avec un dernier chapitre, là ce n'est pas non plus sans intérêt, qui s'enfuit des territoires, si je puis dire, et qui s'appelle la navigation. Comme souvent, la mer, c'est justement la colle de l'Empire, si je puis dire. Ce qui permet l'agrégat. Donc, déclinaison des territoires du monde au travers d'une série de chapitres territoriaux, selon une logique dont je remarquerai quand même qu'elle est plus systématique et exhaustive, hein, rappelez-vous l'énumération que je vous ai faite, pour ce qui concerne l'Europe que pour ce qui concerne le reste du monde. Hein, le reste du monde étant traité hors Europe de façon moins précise à partir de grands ensembles. Afrique, Perse et Katay, c'est-à-dire Perse et Chine, en fait, hein, Grand Turc, Nouveau Monde, hein, quatre grands ensembles. Donc, premier point, donc, ce que je voulais vous dire sur le plan d'ouvrage. Deuxième point, sur la chronologie. Il a été parfaitement démontré, notamment par German Heinz, que la monarchie d'Espagne est écrite sur une durée qui n'est pas si brève que cela, hein. Probablement la première version date des années 1592-1593, pour une première rédaction beaucoup plus brève. La deuxième rédaction plus longue et quasiment définitive étant datable à 1598, même si on a quelques interventions sur le texte par la suite. Ce qui m'intéresse ici, c'est de souligner que la rédaction de ce texte précède la rédaction de la Cité du Soleil, hein, qui n'adviendra que 2 ans plus tard. Donc il précède la Cité du Soleil. Il appartient au même moment historique qu'une autre œuvre de Campanelle, dont nous n'avons pas, hélas, de traduction française, mais qui est tout à fait importante, et qui s'appelle « Les discours aux princes d'Italie ». Hein, je vous en parle parce que je l'évoquerai dans cette conférence. Et qui sont une série de discours rédigés dans les années 90 et au début des années 1600. La monarchie d'Espagne a donc, je rappelle cette question chronologique, pour vous souligner qu'il s'agit d'un texte important pour Campanelle, d'un texte principiel, rédigé d'abord dans une version brève, puis élargi, approfondi, nourri dans une version plus longue, et qu'il ne s'agit donc pas d'un texte qui serait censé compenser, justifier, expliquer, excuser son engagement politique anti-espagnol lors de la conjuration qui va suivre l'année suivante. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important au départ de souligner cela. C'est qu'en gros, il faut prendre au sérieux cet engagement pro-espagnol de Campanelle. Il faut en rendre compte théoriquement en le prenant au sérieux, en ne le considérant pas comme purement instrumental. Troisième point, celui qui est lié à la fortune à la diffusion de ce texte, Cette fortuite de diffusion qui est un peu bizarre, hein, puisque la première réception du texte de la Monarchia d'Espagne a lieu dans une version qui, d'une part, est traduite en latin, hein, des Monarchia Hispanica, et qui, d'autre part, est fortement manipulée, probablement par quelqu'un qui s'était présenté comme un ami de Campanella pour lui soutirer quelques manuscrits, qui après les a édités comme il lui semblait bon de les éditer, et qui s'appelle Gaspar Schaup, hein, un Allemand converti protestant au départ, converti au catholicisme, et ayant probablement séduit Campanella parce qu'il était dans une logique de reconversion des hérétiques du nord de l'Europe. Et donc Campanella a fait sortir de prison par son intermédiaire un certain nombre de manuscrits. Schaup en a profité pour les éditer, et pour les éditer d'une façon assez peu sérieuse d'un point de vue philologique, hein, puisque d'une part il les traduisait en latin pour toucher un public plus large, et, mais surtout il mélangeait des textes différents. Donc on a le De Monarchia Hispanica qui est publié en 1621, je crois, dans sa première édition en Allemagne, est en fait un texte qui mélange le texte de Campanella avec un autre texte extrêmement important de l'époque dont vous avez probablement entendu parler, qui est le traité sur la raison d'État de Giovanni Botero, hein, dont la première édition date de 1589, puis il y aura une série d'éditions qui se succéderont jusqu'en 1598, pour lesquelles je vous renvoie aux études italiennes de Luigi Firpo et aux études françaises plus récentes, extrêmement importantes, d'un de nos jeunes collègues qui s'appelle Romain Descendre, qui est maintenant professeur à l'École normale supérieure de Lyon. Donc, cette première réception est donc une réception curieuse d'un texte farci d'interpolations botériennes, rabattu donc sur un filon, les textes sur la raison d'État, qui n'était pas son filon initial. Hein. Et ce qui est encore peut-être plus intéressant, c'est que Campanella, qui est parfaitement au courant de cette manipulation, n'est pas jugé bon d'y remédier, y compris au moment où, dans les années 30, il était parfaitement libre de le faire, puisqu'il avait pu enfin fuir l'Italie, échapper à la prison, et que dans son exil parisien, il mettait en place une publication systématique de son opéra Omnia. Bon, même à ce moment-là, il aurait pu le faire, il ne le fait pas. Hein. Même quand il est en situation de programmer systématiquement la publication de ses œuvres, il laisse de côté ce texte. Que peut-on tirer donc de ces trois remarques par lesquelles je voulais commencer ? D'abord, la Monarchia d'Espagne a eu un rôle central dans la définition de ce que j'appellerais une géographie politique du monde campanélien dans les dernières années du XVIe siècle. Mais aussi, elle a probablement perdu tout ou partie de ce rôle au fil du temps. Et mon intervention voudrait essayer un peu de réfléchir sur les raisons pour lesquelles elle a perdu tout ou partie de ce rôle au fil du temps. Tout en conservant une partie, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important à mon sens. Donc, dans la monarchie d'Espagne, l'analyse du royaume espagnol est tout entière portée par l'aspiration de Campanella à une monarchie catholique universelle liée étroitement à la papauté romaine. Au contraire, on pourrait y revenir, hein, les textes relevant de ce que l'on appelle la monarchie de France sont d'abord, chronologiquement et conceptuellement, pensés non pas comme une défense d'une monarchie française universelle, mais comme les composantes d'une machine de guerre théorique et historique contre l'hégémonie espagnole. En d'autres termes, aussi bien dans la monarchie d'Espagne que dans la monarchie de France, ce qui compte, c'est l'Espagne. C'est par rapport à l'Espagne que les choses se déterminent. Une des conséquences de cette évolution et de ce déplacement de la monarchie d'Espagne à ce que l'on a appelé la monarchie de France est l'intérêt quasiment exclusif pour les questions de politique étrangère dans les textes des années 1630, ceux de la monarchie de France, tandis qu'au contraire, la monarchie d'Espagne, quant à elle, s'attarde volontiers sur les questions de réorganisation administrative, sur les questions de politique intérieure, pour nous dire aujourd'hui, de la monarchie et de l'Empire. D'ailleurs, déjà, dans la première version de la monarchie d'Espagne, même quand l'auteur insiste sur le caractère licencieux ou indiscipliné et le manque de sagacité des Français, en regrettant la force et les progrès de l'hérésie dans le royaume de France, ou ses divisions endémiques, il admet dans le même temps que les Français peuvent conserver, au nom de l'héritage de Charlemagne, quelques germes d'espoir d'accéder à la monarchie. Il peut même affirmer alors que la France aurait eu la monarchie du monde si, par la suite, elle n'avait pas appris les hérésies et désobéit toujours au pape. Donc, cette idée de la France comme possible contraltare, comme possible proposition théorique symétrique de l'Espagne, existe déjà dans la monarchie d'Espagne, même si c'est toujours par rapport à la monarchie d'Espagne que les choses se déterminent. Campanella peut même continuer en énumérant les moyens d'affaiblir la France. Hein. C'est une nécessité pour que justement les rois d'Espagne puissent accomplir leur destin divin, notamment en accroissant les divisions des Français entre eux, d'une façon assez machiavélienne. Il peut même rêver à un moment donné d'une sorte de monarchie élective française, un peu sur le modèle de la monarchie polonaise qui ferait éclater le royaume en de multiples baronnies. Mais ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que même dans la monarchie d'Espagne, même au moment où Campanella est persuadé que il faut miser en quelque sorte sur le destin fatal de l'Espagne comme facteur d'unification de l'œcumène, il ne fait jamais preuve d'animosité à l'encontre des Français. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'on va voir au contraire qu'il est assez intéressant de voir comment petit à petit, hein, au fil de ces 30 années dont je vous parle aujourd'hui, l'animosité à l'égard des Espagnols ne va cesser de croître. Le raisonnement, donc, d'emblée, s'avère, je le dirais, plus pro-espagnol qu'hispanophile. Hein. Et il est marqué par une certaine distance, biographiquement assez compréhensible, pour quelqu'un qui subit l'âpreté des géoles espagnols à Naples, qui les a subis avant 1598 parce qu'il avait déjà été arrêté, hein, et qui va les subir après, pendant 30 ans. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il reprend ici une logique que vous connaissez tous, hein, enfin tous les gens qui travaillent sur l'Espagne des XVIe et XVIIe siècles, à savoir l'idée de l'Espagne élue de Dieu, etc., mais d'une façon un petit peu différente. C'est là-dessus que j'essaierai de me pencher. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment différents éléments fragilisent d'emblée l'exposé du point de vue principal. Le point de vue principal étant l'Espagne a pour mission divine de réaliser l'unité du monde. Ça, c'est clair. Mais différents éléments fragilisent cet exposé du point de vue principal et vont rendre plus tard possible des déplacements et des glissements, voire un mouvement de bascule, on y reviendra. Alors, sur ces possibles lieux de fragilisation de la position campanellienne, je voudrais m'arrêter sur 6 points. Tout d'abord, le choix divin qui rend fatal l'Empire espagnol, au moment où l'auteur écrit, est susceptible de modification. En effet, il apparaît comme un choix par défaut, puisque la seule autre monarchie à pouvoir prétendre à un destin universel, au grand regret de Campanella, est celle des Turcs. Et on ne peut quand même pas se mettre du côté des Turcs. Donc, on est bien obligé de choisir les Espagnols. De fait, d'ailleurs, les chroniques espagnoles aiment à mettre en scène, on le sait, l'opposition des deux empereurs, hein, Charles Quint et Soliman le Magnifique, ce qui d'ailleurs est une aberration théorique quand vous y pensez. Il ne peut pas y avoir deux empereurs. Un empereur, il y en a qu'un, ou sinon ce n'est pas un empereur. Hein. Donc cette idée de la multiplicité des empires est quelque chose qui est en train de se construire au fil du XVIe siècle, qui ne naît pas, évidemment, avec Campanella, mais Campanella va donner une sorte de construction théorique à cette multiplicité des empires qui ne me semble pas inintéressante. Donc, les Turcs, le problème des Turcs, hein, outre qu'ils sont des infidèles, bon, ce qui est un problème qui est important, mais qui finalement pourrait n'être que secondaire s'ils se convertissaient. Hein. Le problème des Turcs, et ça, Campanella insiste pour le souligner, c'est que la nature du régime politique qu'ils mettent en place, hein, conduit à transformer tous les peuples conquis en esclaves. Et ça, c'est une chose qui est insupportable parce que ça crée une opposition entre deux choses qui, chez Campanella, ne peuvent être opposées, qui sont l'unité des territoires, l'unité du monde et la liberté des hommes. Il faut trouver une solution historique, une solution politique qui puisse articuler ces deux choses et pas les opposer. Donc, symétriquement, évidemment, le devoir majeur des souverains espagnols devrait donc être d'inventer un chemin pour unifier le monde dans le respect de la liberté de chacun de ceux qui l'habitent. C'est ce que firent les Romains aux yeux de Campanella en romanisant le monde. C'est bien ce que devraient faire les Espagnols en l'hispanisant. et c'est important, ils utilisent d'ailleurs ces termes, hein, romanizar, hispanizar. Hein. Et c'est important cette articulation entre romanizar et hispanizar, et cette espèce de comparatisme spatio-temporel auquel il se livre et qui vient de la pensée politique italienne du début du XVIe siècle, hein, puisque c'est sur ce point que les Espagnols vont faillir au jeu de Campanella. Hein. Ils ne réussiront pas ce que les Romains avaient réussi à faire. Les Romains avaient réussi à romaniser le monde, les Espagnols ne parviendront pas à l'hispaniser. Et il faut comprendre pourquoi. Ça, c'est le premier point. En plus, pour un adversaire convaincu de toute prédestination comme l'est Campanella, l'accumulation des erreurs et des fautes des hommes au pouvoir peut modifier le destin des peuples. Il se plaît d'ailleurs à souligner maintes erreurs déjà commises par Charles Quint puis par Philippe II. Bref, en quelque sorte, le libre arbitre des rois peut les conduire à trahir les choix de la Providence, en restant sourd aux objurgations des prédicateurs, en allant à l'encontre des annonces des prophètes, en décevant les attentes des messies, sans pour autant que cela porte atteinte à la lucidité des prédictions. À cet égard, paradoxalement, l'attention à la configuration astrologique, qui vient toujours soutenir le propos de Campanella, peut se révéler une forme plus ésotérique d'examen et de prise en compte de la conjoncture. Autre point, Campanella est tout à fait conscient des faiblesses que l'on pourrait dire aujourd'hui structurelles des royaumes d'Espagne. Et il ne se fait pas faute de les développer, même si la hiérarchie toute conjoncturelle des éléments lui permet à ce moment-là, c'est-à-dire dans les dernières années du XVIe siècle, là c'est important, la question du moment est capitale, de ne pas leur donner une importance déterminante. C'est-à-dire qu'on va retrouver plus tard les mêmes éléments dont le poids dans l'argumentaire va changer. Hein ? Mais à ce moment-là, leur importance n'est pas déterminante, mais ils sont déjà relevés. Il est en particulier attentif, dès la fin du XVIe siècle, au risque que fait courir à l'Espagne le poids démographique insuffisant de la Castille. D'où l'importance qu'il souligne des mariages et du mélange des populations au sein de l'Empire. Il est aussi attentif à la dépendance financière grandissante de la monarchie par rapport à l'or et à l'argent des Amériques. Dans l'avant-dernier chapitre de la monarchie d'Espagne, se dessine même une sévère critique de la cruauté des Espagnols dans leur possession du Nouveau Monde et de leur manque d'attention aux hommes par excès de cupidité. C'est le mot qu'ils utilisent. Trop préoccupés par l'argent, les souverains espagnols commettent de la sorte une erreur politique fondamentale, car ils négligent de se gagner les cœurs de leurs nouveaux sujets. Et une faute spirituelle, car ils répandent une image de la religion catholique qui interdit de sauver les âmes. En outre, Campanella est enclin à défendre la dépendance étroite du souverain espagnol par rapport au pape. Au nom du refus de la conception de la religion comme instrumentum regni, tout en engageant le roi catholique, pour ne pas souffrir de cette exigence politico-spirituelle, à faire en sorte que l'on élise un pape espagnol, si possible membre de sa propre famille. Le statut des petits États italiens est lui aussi lourd d'ambiguïté et susceptible de faire évoluer le point de vue de Campanella. Le conseil donné aux princes de se ranger dans le camp espagnol, aux princes italiens, était conçu au nom d'un moindre mal. C'est le terme qu'il emploie dans les discours aux princes d'Italie. Et on pourrait ajouter que dans les derniers discours aux princes d'Italie, le texte est tout entier occupé par l'exposé d'un projet néo-guelf très patriotique, où le roi catholique passe au second plan. Si la prospérité, la liberté relative et la tranquillité de l'Italie sont primordiaux pour l'auteur, une conjoncture différente peut tout à fait logiquement le conduire à reporter ses espoirs sur un autre souverain, protecteur de la péninsule, protecteur potentiel de la péninsule. On peut passer ainsi très précisément d'un huitième discours au prince d'Italie où il est écrit qu'il faut confier le sort de la péninsule aux Espagnols, faute de meilleures solutions, à un neuvième discours où le renforcement du pouvoir pontifical est explicitement envisagé comme un moyen, je cite, de s'assurer que l'on ne sera pas la proie du roi d'Espagne. Puis un dixième discours où Campanella reprend, pour se débarrasser explicitement des Espagnols en Italie, une solution qui, dans la monarchie d'Espagne latinisée et botérisée en 1620, est proposée pour éloigner les Français du champ de bataille européen, à savoir les envoyer à la croisade. C'est intéressant parce que ce qui va se mettre en place dans cette pensée-là et dans cette pluralité des empires, c'est une pensée différente de l'Empire selon que l'on pense à l'Empire continental, européen, pour être clair, ou selon que l'on pense à l'Empire extra-européen. C'est-à-dire la construction de deux formes différentes et pensées différemment de l'Empire ici. Pas simplement une pluralité en tant que telle, c'est une pluralité aussi dans les formes. Il est remarquable à cet égard que Campanelle affirme sans détour le caractère inexorable de la guerre entre les monarchies françaises et espagnoles. Il le fait à ce moment-là sans aucun jugement de valeur, même s'il en impute principalement même s'il en impute principalement la responsabilité à la France, puisque la France lui est par nature aussi ennemie, c'est-à-dire ennemie de l'Espagne, il faudra toujours qu'elle soit en guerre avec elle, dit-il. Il est significatif que dans le chapitre 19 de la monarchie d'Espagne, l'auteur admette, même si c'est pour en réfuter les conséquences négatives, que l'Empire espagnol est territorialement éclaté et que la plupart des peuples d'Europe sont ses ennemis. C'est très important cette idée que les Espagnols, en fait, ils suscitent l'inimitié. Ils ne suscitent pas l'amitié, ils suscitent l'inimitié. Ils sont incapables de se faire aimer, en quelque sorte. Ce dernier point rejoint la remarque selon laquelle, aux Pays-Bas, aussi bien qu'au Nouveau Monde, les Espagnols sont fauteurs de désunion plutôt que facteurs d'union. Ainsi se met en place une articulation paradoxale de la guerre et de l'union, dans laquelle l'auteur s'intéresse toujours plus au système d'alliance et à l'équilibre politico-militaire entre une grande puissance solitaire, l'Espagne, et une autre grande puissance, la France, qui, elle, pourrait être épaulée par de multiples puissances moyennes, avec une pensée relativement sophistiquée, je dirais, qui décline les degrés de puissance au sein du territoire européen pour arriver à opposer deux logiques, une logique unitaire solitaire, qui serait la logique espagnole, et une logique d'hégémonie plurielle, si je puis dire, fondée sur des alliances et qui serait le système mis en place potentiellement, ou à mettre en place potentiellement, entre autres par la monarchie française. Dans cette perspective, on comprend mieux comment l'auteur de cette monarchie à d'Espagne a pu être, un an après, l'âme d'une conjuration contre le pouvoir espagnol. Ça paraît paradoxal, ça paraît absurde, ça paraît contradictoire, mais au vu de ce que je suis en train de vous dire, ça ne l'est pas tant que ça. Il a même pu d'ailleurs, à cette époque, un an après, envisager ponctuellement une alliance avec les barbaresques qui croisaient en face de la Calabre pour assurer le succès de la conjuration. Il ne faut voir là nulle hypocrisie ou double langage, pas plus qu'il n'est sérieux scientifiquement de dire que la monarchie d'Espagne relèverait d'une quelconque logique courtisane, la flatterie du pouvoir en place dans le royaume de Naples étant appelée à tenir lieu de viatique ou d'excuses tardives pour un jeune dominicain aussi désargenté qu'ambitieux et solitaire. La critique des formes que prend le gouvernement espagnol peut parfaitement aller de pair avec la défense du destin impérial de la monarchie espagnole. Et c'est ça qui me semble extrêmement important, c'est que Campanella met en place en fait un type de théorisation de l'Empire qui lui permette en même temps de défendre la vocation espagnole à l'unification du monde et de critiquer de façon extrêmement dure les formes d'exercice de la domination sur le monde par les Espagnols. Les deux vont ensemble chez lui. Le combat contre les personnes qui ont entre leurs mains l'exercice de la domination immédiate et toute proche n'est donc en rien contradictoire avec l'éloge de celles qui ont reçu le pouvoir symbolique lointain et surtout qui sont chargées par Dieu de l'unification de l'Écoumène. Les premières ne comprennent pas ce qu'est le dessein divin, tandis que les secondes sont les détentrices d'une mission divine qui les dépasse et donc les protège. Lors de la conjuration de 1599, le jeune Campanelle nourrit l'illusion quelques semaines durant d'un possible début de bouleversement et d'un renversement de l'état des choses. À ce moment-là, sa Calabre n'est pas au bout du monde, contrairement à ce qu'un trop rapide coup d'œil sur une carte tendrait à faire croire. Ce bout du monde est plutôt pour lui un centre du monde. C'est un point essentiel. Sans cette considération, on ne comprend pas grand-chose au destin du philosophe de style. Il le revendique clairement dans les premières lignes de défense lors de son procès. Il a vraiment été convaincu par ses observations et ses réflexions que c'était de là, de la pointe de la péninsule italienne, que devait commencer la réforme du monde. Selon une conception traditionnelle présente dans la plupart des pensées millénaristes et prophétiques, la réforme de l'Ecclésia, comme communauté, doit en effet irradier à partir d'un point précis. Le renouvellement n'intervient donc pas partout de la même façon et au même moment. Il faut définir justement le moment et le lieu d'où va commencer la réforme. C'est là d'ailleurs une des ambiguïtés de ce type de processus. Il ne peut que concerner le monde entier, mais il commence à advenir quelque part, dans une seule petite partie singulière du monde, et ne concerne d'abord dans les faits que quelques-uns. Le tout est ici conditionné par une de ses parties, et l'horizon universel dépend d'un cas particulier. Le charisme du jeune prédicateur, mais aussi la fragilité de sa position, son isolement potentiel, tiennent du même coup pour beaucoup à cette situation. Ses alliés, lors de la conjuration, étaient sans doute moins préoccupés par la réforme de la chrétienté que par le bouleversement d'une forme locale d'exercice du pouvoir, perçue comme néfaste. Le va-et-vient incessant des niveaux et des registres est en revanche pour lui constitutif d'emblée de sa réflexion politique, qui, par la nature même de son intervention dans le monde, appartient en même temps et à la fois au tout et à ses parties. Les pièces du procès de Campanelle, même si nous n'y entendons que la seule voix de Campanelle, offrent une bonne illustration des distinctions entre les attentes et les présupposés respectifs des différents acteurs de la conjuration. En effet, s'y mêlent constamment des considérations sur la situation politico-sociale de la Calabre et des analyses sur l'inéluctable bouleversement du monde annoncé par la configuration dominante des cieux, pour le plus grand bonheur de la monarchie espagnole, appelée à unifier le monde. Je vous signale à cet égard cette source qui est absolument fondamentale, qui est la publication des textes du procès de Campanelle en 1599. On en a une édition récente, une réédition récente, qui a été curata par Eugenio Cannone. Et la première édition avait été faite par Luigi Firpo, dont je vous parlais tout à l'heure. Le dernier épisode du procès de Campanelle est à cet égard particulièrement significatif. Quand il sait que sa version des faits ne peut plus être écoutée, ce n'est pas la folie de la croix qu'il mobilise, contrairement à un Savonarole par exemple, mais la folie bien réelle qu'il feint. Campanelle va sauver sa vie lors de ce procès en feignant la folie. Pourquoi ? Parce que, alors non pas au nom d'une question très moderne qui serait que quand vous êtes fou, vous n'êtes pas responsable, donc vous ne pouvez pas être condamné à mort, c'est pas ça l'idée, c'est que quand vous êtes fou, vous ne pouvez pas vous confesser. Et donc, nous ne voulons pas la possibilité d'être sauvés. Et du coup, on ne peut pas condamner à mort un fou. On peut le condamner à la prison à vie, mais on ne peut pas le condamner à mort. Donc, il va feindre la folie malgré la torture. Ça va marcher, hein, puisqu'il ne va pas être condamné à mort. Il va être condamné à la prison à vie. À ce moment-là, il sait jouer le juridique pur contre le politique. En refusant de se placer sur le terrain historique des faits, comme sur le terrain doctrinal des raisons. La folie devient ainsi une arme toute politique, un renversement intéressant, une arme qui retourne, que Campanelle retourne contre les politiques en utilisant les instruments de la juridiction qui les sert. Une arme en quelque sorte anti-tyrannique. Utiliser cet expédient signifie en outre utiliser le temps des hommes et le temps propre de la justice au service du temps de Dieu. Sauver sa vie, c'est aussi sauvegarder la possibilité de transmission de son message ultérieurement dans une situation différente. Jonas, plongé dans la baleine, doit pouvoir en ressortir. Pour permettre à la liberté humaine de se déployer, il faut commencer par sauver le corps. À tout moment, Campanella se retourne donc vers les hommes au nom de sa propre humanité et, contrairement à un personnage comme Savonarole, ne manifeste aucun attrait pour le martyr. Il choisit la longue durée de l'histoire dans laquelle il veut continuer obstinément à intervenir et non l'apothéose du sacrifice. Encore moins la fuite dans l'utopie, contrairement à ce qu'on lui a fait dire souvent. Ce procès marquera donc sa vie, non seulement par les années de prison qui en découlent, mais aussi parce qu'il passera justement cette vie à mettre le procès au service de son destin personnel, de son dessein politique et de sa méthode prophétique, en dépassant l'histoire locale de la conjuration. Il s'agit d'inscrire les événements en question dans la grande histoire du monde, qui va être bouleversée, mais toujours dans le cadre de l'histoire d'hommes libres qui peuvent suivre leur vocation, ou faillir. Or, dans ce destin personnel, comme dans cette histoire du monde, l'évolution de la place laissée à la monarchie espagnole est décisive. J'en viens donc à mon point suivant. Si l'on en croit la chronologie établie par German Ernst entre les deux rédactions de la monarchie d'Espagne, c'est le chapitre 24, c'est-à-dire le traitement accordé à la France, qui permet de conclure à une datation précise du texte. L'hypothèse est philologiquement convaincante, mais elle permet aussi de relever à quel point l'auteur est attentif à l'évolution de la situation interne du royaume de France, et plus particulièrement de constater qu'à la date de la version la plus ample du texte, en 1598, un des arguments qui servait à écarter d'éventuelles prétentions françaises à la monarchie universelle est tombé, puisque la France est l'image même d'un royaume peuplé, prospère, uni derrière son roi, Henri IV, et où l'hérésie a reculé. Certes, le primat de l'Espagne est encore confirmé sans hésitation par Campanelle en 1598, mais ici commence un cheminement argumentatif qui, en passant par différents textes que je vais évoquer maintenant, de 1628 jusqu'à sa mort, va déboucher sur un renversement complet de la position de l'auteur. En 1628, la situation internationale est loin d'être comparable à ce qu'elle était en 1598. Elle n'est même pas comparable à ce qui était le tableau qu'offrait l'Europe en 1625. La situation difficile de la France, en 1625 par exemple, illustrée par des libelles polémiques très importants, nombreux, hein, écrits par les partisans de Richelieu notamment, hein, qui préparent la venue du cardinal au pouvoir, la France mourante notamment, hein, a bien changé dans les années 1628. Et à cet égard, l'Espagne est ébranlée. Elle est ébranlée, même si un autre grand ministre, hein, le comte Duc Olivares, avait pu sembler la conduire au sommet de sa puissance durant l'année 1625. Forte qu'elle était des victoires de ses armées dans les premières années de la guerre de 30 ans, avec l'occupation du Palatinat, les prises de Breda et de Juliers. Les choses changent justement à la fin des années 20, même si à cette époque-là, les raisons de la paix entre la France et l'Espagne l'emportent encore sur les raisons de la guerre. Les choses changent parce que l'Espagne commence à souffrir des coups des marines anglaises et hollandaises. Les choses changent parce que l'Espagne est obligée d'investir en argent et en hommes des sommes et des engagements infinis pour résister sur plusieurs champs de bataille, pour combattre sur plusieurs champs de bataille, hein. C'est le vrai problème que vous avez de tout temps dans les stratégies impériales, y compris par exemple dans la stratégie impériale américaine. Vous savez que quand les Américains réfléchissent au sein de leur ministère de la Défense sur quels doivent être les impératifs les plus importants pour eux, c'est être capable de combattre en même temps sur au moins deux champs de bataille. Campanelle comprend à cette époque-là, très clairement, que les choses changent, et il va intégrer ce climat nouveau dans un petit texte qui a été traduit en français dans une édition que je ne vous ai pas apportée, qui a été traduit aux presses de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, avec un titre qui est un peu discutable, bon, qui est un titre éditorial qui s'appelle « La mission de la France », où sont rassemblés par Florence Poucharcone un certain nombre de textes justement pro-français, traduits en français justement, de l'italien ou du latin, qui sont les textes dont je vais vous parler maintenant. Donc je vous le signale parce que vous pouvez le lire dans une édition moderne, récente et bien faite, hein, et bien annotée dans cette édition-là qui date de 2005-2006. Donc, Campanelle écrit en 1628 un bref avertissement, hein, dans les derniers mois de 1628, après la prise de La Rochelle, date importante. C'est un moment où le roi de France semble avoir défait l'hérésie définitivement dans le royaume, si je puis dire, hérésie avec beaucoup de guillemets. Dans ce texte, Campanelle met en place justement les éléments d'une analyse un petit peu différente de celle qu'il faisait jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce que entre-temps a commencé aussi la succession contestée du duché de Mantoue, ouverte depuis le début de l'année 1628, et que se succèdent des guerres qui sont souvent présentées comme religieuses, mais qui n'ont de religieuses que le nom, et qui opposent la puissance catholique espagnole à des puissances protestantes, justement ces puissances moyennes que j'évoquais tout à l'heure, comme les Pays-Bas qui viennent de naître, la Suède, avec le grand Gustave Adolphe, un autre instrument fatal du destin pour. Alors évidemment, il est du côté des hérétiques, c'est un peu compliqué, mais bon. C'est quand même un instrument fatal du destin, lui aussi, il va le dire Campanella. Le jeu se complique, en quelque sorte, entre les Habsbourg et les Bourbons. Alors, malgré tout, Campanella, dans ce court texte très important, entend envisager une possible paix, une union des catholiques contre les hérétiques, des Français et des Espagnols contre les hérétiques. Et pour ce faire, il avance une proposition inédite, sur laquelle je voudrais m'attarder parce qu'elle me semble importante, qui consiste à mettre au premier plan la question napolitaine. Alors, il propose une chose assez simple, il dit voilà, ça fait un siècle et demi que les Espagnols et les Français se disputent pour savoir qui aura le royaume de Naples. Eh bien, faisons une chose nouvelle, confions ce royaume de Naples au pape. Donc, ni à la France, ni à l'Espagne, au pape. Ce qui, d'un point de vue, du point de vue du droit féodal, n'était pas totalement absurde, puisque, du point de vue du droit féodal, le vrai suzerain du royaume de Naples, c'était le pape, hein, mais qui, évidemment, ne laissait pas de surprendre un petit peu à cette époque-là. Alors, est-ce que, face à une proposition comme celle-ci, on peut en conclure simplement que nous sommes en face d'un dominicain illuminé, hein, une espèce de fou furieux, qui tout d'un coup prétend régler des questions sérieuses avec des remèdes qui ne le sont pas? Je pense que les choses sont plus compliquées que ça. Parce que Campanella a dans la tête une idée assez précise. Donner le royaume de Naples au pape, c'est le donner à personne et le donner à tout le monde. Parce que le pape est le père commun de tous les catholiques. Et donc, le donner au pape, c'est le donner à tout le monde. C'est-à-dire que c'est rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre de la mise en communauté d'un bien. C'est-à-dire qu'on a exactement dans la même logique que la logique soi-disant utopique de la Cité du Soleil, où il prêchait la communauté des biens. Ce n'est pas complètement un hasard, d'ailleurs, si, deux années plus tard, quand il écrira à la fin de la monarchie du Messie, une appendice que je vous conseille de lire, ne lisez pas la monarchie du Messie, c'est extrêmement ennuyeux, mais lisez, bon, moi ça m'intéresse, mais bon, j'admets que pour un lecteur lambda, ça soit extrêmement ennuyeux, mais vous avez dans la monarchie du Messie un texte à la fin qui est placé en appendice, hein, et qui s'appelle le discours au sujet des droits du roi catholique sur le nouvel hémisphère et sur les autres royaumes des infidèles d'après les écritures divines contre ceux qui ont écrit sur ce sujet par flatterie ou par esprit de contradiction. Donc c'est en fait c'est une défense des droits des souverains espagnols sur le Nouveau Monde, mais en les fondant théoriquement d'une façon complètement différente de ce que faisait l'école de Salamanque, de ce que pouvaient faire les théoriciens royaux, entre guillemets, même, qui d'ailleurs n'étaient pas d'accord entre eux. Enfin, ça, c'est encore un autre débat. Mais lui, il dit, non, on va partir d'autre chose. Et à un moment donné, il a une phrase que je trouve absolument fantastique. Il dit, les Espagnols, ils ont le droit d'unifier le monde, tout ça, parce que, pourquoi ? Parce qu'ils ont mis le monde en communication. Ils ont fait communiquer le monde. On se dit, comment il faut comprendre ça? Et puis, si on fait une recherche sur l'utilisation du lexique politico-juridique de l'époque, on s'aperçoit que mettre en communication le monde, ce n'était pas simplement mettre en relation différentes parties du monde, c'est mettre en commun. C'est-à-dire que les Espagnols doivent mettre en commun le monde. Mais pour mettre en commun le monde, il faut accepter de s'abstraire de soi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas conquérir pour soi. Il faut être capable d'hispaniser le monde. Et hispaniser le monde, c'est aussi l'arracher au simple exercice de la domination d'un souverain singulier qui serait le roi d'Espagne. Donc du coup, on comprend mieux ce que Campanella fait quand il propose de remettre le royaume de Naples au pape. Il veut donner une exemplification local, limité, de ce processus qu'il appelle universel, hein, de ce processus universel qu'il appelle de ses voeux. Alors, moins rêveur qu'on ne l'a souvent décrit, il avoue d'ailleurs dans ce texte, non sans quelques mélancolies un peu tragiques, dans sa dernière phrase, « Je sais bien que pris par la passion de leur ambition très cruelle, ils ne le remettront pas, les souverains espagnols. » et ils ne seront jamais en paix. Et ainsi, nous perdrons nos royaumes. Donc vous n'êtes pas en face de quelqu'un qui est simplement un illuminé. Vous êtes en face de quelqu'un qui est aussi capable de faire une analyse de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible, mais qui n'en présente pas moins les hypothèses qui lui sont chères. Sautons quelques années et arrivons aux années 1632-1633, à un texte que vous pouvez lire aussi dans le petit recueil de textes publié aux presses de la rue d'Ulm sur la mission de la France, un dialogue qui s'intitule « Dialogue politique entre un Vénitien, un Espagnol et un Français sur les troubles récents de France ». La forme dialoguée se prête à l'exposé de tous les points de vue opposés, mais très vite, le discours de l'intervenant qui est proche des Espagnols, et dont on ne sait pas très bien d'ailleurs s'il est espagnol lui-même, va avoir nettement le dessous face aux deux autres interlocuteurs qui défendent la politique de Louis XIII et de Richelieu. Et curieusement, c'est le Vénitien qui va tenir les propos les plus incisifs. La discussion tourne autour de l'idée très naturaliste et biologique de l'âge des régimes et des royaumes. Face à l'Espagne, dont l'Empire est neuf, c'est un des arguments d'ailleurs de Campanella pour défendre le caractère providentiel de la monarchie d'Espagne, qui sont adaptés au temps, en quelque sorte. La France apparaît aux yeux de l'Espagnol comme un vieil État qui appartient au passé. Au contraire, pour le français, pour l'interlocuteur français, il s'agit d'une puissance à la fois vieille et jeune, parce qu'elle a été renouvelée par le passage du royaume de la dynastie des Valois à celle des Bourbons. Le Vénitien, plus pragmatique, se contente quant à lui d'insister sur la richesse, la force et l'unité de la France, surtout si on la compare à l'Espagne, dont pour la première fois, Campanella, sans évoquer encore l'argument de son déclin, hein, c'est le deuxième terme de ma conférence, j'y arrive, son déclin irréversible, qui sera au cœur des textes de 1635-1636. Donc Campanella remarque qu'elle est potentiellement inférieure à la France. Au début des années 30, le prestige de l'Espagne tend à diminuer de fait dans la France de Louis XIII, tout comme dans l'Italie de Campanella, où le nombre d'écrits anti-espagnols va croissant, et où l'iconographie belliqueuse contre les rois catholiques ou leurs sujets est de plus en plus présente. À la fin des années 1620, le retournement de conjoncture, je l'ai dit, se fait de plus en plus sentir. Le 8 septembre 1628, comme vous le savez, et les Hollandais s'étaient emparés du trésor des Indes dans le port cubain de Matanzas. En 1630, les Hollandais vont jusqu'à prendre Pernambouc. L'Espagne est plongée dans une crise financière, accrue par l'insécurité grandissante des voies maritimes. Et du même coup, si la France était unie, ce qui n'est pas encore le cas complètement en 1632-1633, nous dit Campanella, si la France était unie, elle pourrait prendre le dessus sur ces Espagnols affaiblis. C'est un des thèmes essentiels du dialogue, porté notamment par le Vénitien, par l'interlocuteur vénitien. Dans ce dialogue, Campanella pose un axiome capital qui explique bonne part de son tournant politique et qui nous intéresse parce que c'est un des points essentiels, à mon avis, de compréhension du déplacement théorique qui va s'effectuer de la monarchie d'Espagne à ce que l'on a appelé la monarchie de France. Les Français, s'ils intervenaient massivement en Italie, par exemple, ou ailleurs, ne le ferait pas pour conquérir des territoires, mais pour libérer ceux qui sont occupés. Rappelez-vous de ce que je disais tout à l'heure sur l'articulation entre l'unification du monde et la liberté. Donc les Français n'interviennent pas pour conquérir, mais pour libérer. Rappelez-vous aussi qu'on a un décret royal en 1570 en Espagne qui interdit l'utilisation du terme conquista pour parler des opérations dans le Nouveau Monde. La question de la conquête est une question sensible. Est-ce que le devoir d'un État est de conquérir ou non? Et là, très clairement, Campanella pose quelque chose qui me semble tout à fait intéressant, c'est que, et qui est très anti-machiavélien, c'est que l'extension de l'Empire ne passe pas par la conquête. L'extension de l'Empire passe par la libération. Mais alors, quel empire est-ce s'il libère? Eh bien, il passe par la libération et l'exercice de l'hégémonie. On n'a pas besoin de prendre possession du territoire militairement, de l'occuper en quelque sorte. De plus en plus clairement, Campanelle a établi un curieux lien entre la liberté de l'Italie, la défense et illustration du rôle joué par Richelieu à la tête de l'État, la répression des dernières rébellions de la haute noblesse française, pour laquelle Campanelle n'éprouve aucune sympathie, et l'on peut voir une sorte de réminiscence de son antipathie pour les barons napolitains, et puis l'analyse de ce que font les Espagnols ailleurs. Et ailleurs, c'est notamment aux Pays-Bas et au Nouveau Monde. Ces gens qui pillent, qui massacrent, qui tuent au Nouveau Monde, comme aux Pays-Bas, et peu importe qu'en face d'eux, ils aient des hérétiques ou des non-catholiques, peu importe, sont-ils fondés à exercer une domination juste, telle que celle qui était évoquée dans la monarchie d'Espagne? C'est un problème. On va voir le sac de Mantoue. Et le sac de Mantoue, un siècle après le sac de Rome, rappelle le sac de Rome. De façon systématique, d'ailleurs, on présente ce sac de Mantoue comme un écho du sac de Rome. Vous voyez, ils ne l'ont pas changé. Dans ce cadre-là, la guerre en Allemagne n'est plus une guerre de religion, mais une guerre entre États. Et fort logiquement, pour la première mais pas pour la dernière fois, Campanelle en vient à justifier les alliances avec les hérétiques allemands et suédois au prix d'une argumentation qui ne déparerait pas un traité de propagande française de l'époque. Il s'agit de faire en sorte que les Espagnols ne transforment pas le Vatican en une chapelle du roi d'Espagne et le pape en son aumônier, terme qu'on retrouve textuellement, précisément, dans les textes de propagande française tels quels. Ce sont des expressions qui sont des topoïs de l'époque. Et même ici, la Bible peut venir, comme d'habitude chez Campanelle, au secours du raisonnement, puisque le roi David, on le sait, a eu recours à des forces hérétiques pour se défendre de ses ennemis. Les Espagnols, avant d'être catholiques, avant d'être des fidèles, sont des, je cite, « usurpateurs du bien d'autrui ». Donc, ça veut dire quoi ? S'ils sont des usurpateurs du bien d'autrui, c'est-à-dire, un, ils sont incapables de construire une communauté des biens, et deux, qu'ils sont juridiquement illégitimes. C'est un terme très fort, usurpateur. Et qui plus est, ils deviennent de diaboliques fauteurs de discorde entre les bons chrétiens, puisqu'ils ont empêché l'alliance entre Louis XIII et l'empereur Ferdinand, deux souverains dont la piété aurait pu permettre la reconquête catholique de l'Europe du Nord. Leur seul dessein, nous dit Campanelle, est de faire en Italie ce qu'ils ont fait aux Amériques, en dérobant, spoliant, massacrant. On voit bien que quand il parle du Nouveau Monde, quand il parle des Indiens, ce n'est pas vraiment les Indiens qui l'intéressent. De la même façon que quand il parle de la Hollande, des Pays-Bas, ce n'est pas vraiment les Pays-Bas qui l'intéressent. Et c'est pour ça qu'encore une fois, c'est toujours l'Espagne qui est au cœur, au centre de sa réflexion politique. Ce qui l'intéresse chez les Indiens, ce qui l'intéresse dans les Pays-Bas, ce qui l'intéresse aussi dans le sac de Mantoue, c'est toujours la même chose. C'est que ces événements historiques ultra-contemporains sont les révélateurs d'un type de gouvernement espagnol. Et donc peuvent fonder la critique de ce gouvernement, mais aussi, et c'est ça qui est le plus important, la remise en cause de ce destin fatal d'unification du monde sous la houlette des Espagnols. C'est ce qui va se passer de façon extrêmement claire, et j'en arrive à la fin de ma conférence, dans les textes des années 1635-1636, ceux qui vont donner lieu à cette fameuse monarchie de France que j'évoquais tout à l'heure. Alors, ces interventions ont souvent resté inédites, c'est d'ailleurs un problème. Pourquoi sont-elles restées inédites? Mais il n'empêche qu'elles abondent. Hein, entre 1635 et 1638-1639, hein, Campanelle va n'avoir de cesse d'écrire des textes qui seront de plus en plus violents, de plus en plus anti-espagnols, et qui vont revenir sur ce que j'évoquais tout à l'heure, sur la crise démographique et financière de l'Espagne, sur les faiblesses endémiques de l'Empire, sur l'émergence de puissances moyennes comme les Provinces-Unies ou la Suède, voire la Bavière, etc. On pourra résumer la constellation de réponses que Campanelle pose aux questions qui habitaient ces textes jusqu'à présent avec un constat assez simple. Quand il traite de l'Espagne, il est rarement anti-français, alors que quand il traite de la France, il est de plus en plus systématiquement, violemment hostile aux Espagnols. Le vocabulaire devient obsessionnellement animalier dans ces textes employés à la fin des années 30 pour évoquer l'ambition espagnole. L'Espagne a toujours des griffes, des cerfs, des cerfs de rapace posés sur ses proies. Le terme de proie est récurrent aussi. Et n'a de cesse d'avoir dévoré, divorato, celle-ci. Cette hostilité fait de la France un remède, c'est un terme de Campanella, historique, donc providentiel, aux mots apportés par les Espagnols. Si la France ne pouvait jouer au tournant des XVIe et XVIIe siècles ce rôle, c'est simplement parce qu'elle était encore contaminée par l'hérésie. Ce n'est plus le cas 40 ans après, près de 40 ans après. Campanella a pu longtemps engager les Italiens à accepter la prépondérance espagnole. Ce n'est plus le cas non plus 40 ans après. La série de textes écrite dans les années 30, Campanella est alors exilé à Paris depuis 1635, marque de façon très explicite, très claire, manifeste, un tournant pro-français de ses conceptions géopolitiques et de leur traduction providentialiste. Le temps, pour Campanella, n'est plus au discours nuancé qui soutiennent la France sans trop attaquer l'Espagne, comme dans les textes que je citais précédemment. Il n'est plus non plus au long traité. L'activité spéculative de Campanella semble à cet égard marquer le pas. Son intérêt se concentre sur la publication d'écrits inédits ou imprimés sans son consentement, dont il pense d'ailleurs qu'ils auront leur importance dans la lutte engagée au nom de l'Union, et puis surtout sur des textes d'intervention très courts, tendus, violents à l'occasion, qui ressortissent parfois aux libelles ou aux sermons par substitution, déclamés par ce prédicateur sans chair. Au croisement d'un discours prophétique et d'un diagnostic politico-médical, un constat est dressé, le déclin de l'Espagne. Un remède est proposé, l'adhésion au parti français sous la houlette pontificale. Et un avenir est esquissé, la chute imminente de l'Espagne et une nouvelle fois l'union de la chrétienté, mais selon des modalités qui ne recoupent plus celles de la monarchie d'Espagne. Le constat net et argumenté, en mêlant comme d'ordinaire de façon inextricable et nécessaire les différents niveaux d'interprétation, astrologique, providentiel, économique, géopolitique, démographique, historique, est celui de l'irrémédiable déclin de l'Espagne. L'analyse de Campanella est étayée, en dehors des considérations astrologico-providentielles dont il est coutumier, sur lesquelles je ne m'attendrai pas en l'occurrence, par la reprise d'éléments entrevus et introduits dans les textes précédents. Mais cette fois, elles sont plus développées, développées de façon plus radicale, et les faiblesses structurelles qui avaient déjà été évoquées, la désunion territoriale, l'incapacité à tesorizzare, la crise financière et démographique, sont devenues, dans ces textes des années 30, des défauts rédhibitoires, sans solution possible. Certains arguments fatals, comme la rapidité de la constitution de l'Empire, son extension planétaire sur l'Ancien et le Nouveau Monde, se retournent désormais contre l'Espagne, ou servent à mettre en évidence, dès lors que fait défaut le soutien de la Providence, les facteurs de fragilité de la puissance espagnole, l'éclatement, par exemple, des territoires espagnols. Certaines difficultés ponctuelles ou secondaires sont devenues des constantes fondamentales, comme le point international des Pays-Bas, ou la haine, un terme qui revient constamment dans les textes campanelliens, qu'inspire universellement les Espagnols. Les ombres au tableau que dessinait le récit des exactions espagnoles dans le Nouveau Monde ne relèvent plus d'accidents lointains, mais servent à définir la nature même de la domination espagnole. Donc non seulement il ne faut plus louer et conforter les desseins de l'Espagne, mais il ne faut pas non plus chercher d'accommodement avec elle. Il ne reste qu'à la combattre jusqu'à sa défaite. Campanella est ici beaucoup plus radical que ce qu'il soutient, puisque les Français, il faut le dire, poussés par les campagnes malheureuses qui se succèdent entre 1635 et 1637, négocient assez vite une cessation des hostilités. Ce que Campanella va leur reprocher très durement en septembre 1636. Dans cette lutte à mort au titre des remèdes, il convient de déterminer qui est le mieux à même de reprendre le rôle dévolu jusqu'alors à la couronne espagnole, puis ensuite de saper les fondements de sa puissance. Nulle négociation n'est possible dans cette logique-là. La réponse à la première question est catégorique. Seul le roi de France, à condition de rester subordonné à la volonté pontificale, est capable de mener à bien l'établissement d'une monarchie universelle. Ce qui en Paris devait plaire à moitié à Richelieu, parce que le gallicanisme français n'aimait pas ces résurgences papales. Oint du Seigneur, guérissant les écrouelles, doté du titre de roi très chrétien, qui n'a rien envié, rappelle-t-on, à celui de roi catholique, héritier de Charlemagne et de l'universalité du nom de Franc, descendant du fils aîné de Japhet, le roi de France, selon la monarchie de France, a toute légitimité spirituelle et temporelle pour cette nouvelle mission. Mais dans l'accomplissement de sa mission, le roi de France se heurte à l'obstacle espagnol. Il faut donc dépasser cet obstacle et donc saper le pouvoir espagnol. Il faut arriver à combattre ce qui est présenté comme un monstre territorial à trois têtes, l'Allemagne, l'Espagne et le royaume de Naples. C'est les trois têtes de ce monstre que constitue l'Empire espagnol. Et un à un, Campanella traite dans la monarchie de France de la façon de fragiliser les piliers du pouvoir espagnol, notamment les cinq piliers que sont la religion, le mensonge, la dignité impériale, la maîtrise de l'Italie et la liaison entre les membres et parts de l'Empire. Au sommet de l'édifice théorique ainsi constitué, à la fin de ce cheminement, se situe une longue églogue virgilienne adressée au dauphin qui vient de naître. C'est le dernier texte de Campanella, écrit quelques mois avant sa mort. Longue églogue adressée donc au futur Louis XIV. Long poème écrit en latin, probablement rédigé en décembre 1638, est publié dès le mois de janvier 1739. Donc là aussi, on est dans le cadre d'un texte d'intervention, avec une rapidité rare dans l'histoire des publications de Campanella. L'églogue écrite pour Louis Dieudonné, c'est le nom du futur Louis XIV, montre la lecture que le vieux dominicain veut faire de l'événement, qu'on lui ait ou non demandé de le faire, peu importe. Il est de façon indiscutable le dernier texte achevé de l'auteur, ce qui lui confère un statut sur lequel on ne peut manquer de s'interroger. La naissance du futur roi permet à la monarchie française de reconquérir une maîtrise du temps historique en posant la continuité d'une dynastie, somme toute assez jeune, puisque les Bourbons se sont installés sur le trône il y a moins d'un demi-siècle. Cette maîtrise du temps est à la fois la clé d'une modernité politique et évidemment le socle d'un ancrage prophétique du discours dont on sait l'importance chez Campanella. Du même coup, Campanella peut faire de ce long poème la traduction de son projet universaliste. En choisissant de donner une forme poétique à cette ultime intervention, il va au terme d'un projet engagé avec le dialogue poétique écrit 38 ans auparavant. Il annonce en vers une vérité de l'histoire à venir et de la politique à espérer. Une vérité qui est à la fois divine et humaine. Dieu l'a voulu, mais ce sont les hommes qui ont non seulement le devoir, mais la responsabilité de l'actualiser. Ce faisant, il propose une traduction historique dans le temps présent d'une construction philosophique et éthique de longue durée. L'existence de l'églogue démontre ainsi que la demande éventuelle d'un pronostic n'est pas un acte de superstition préscientifique et que sa rédaction n'a rien de devoir courtisan. Ces deux ultimes interventions du vieux dominicain nous disent quelque chose du but qu'il a poursuivi avec obstination durant toute son existence et quelle que soit sa situation pendant plus de 50 ans d'écriture tout au long de milliers de pages. Au long de ces 250 vers, assortis comme toujours chez Campanella d'un commentaire, puisqu'il ne laisse à personne le soin d'éclaircir le sens de sa poésie, parfois un peu obscure, la lecture d'un événement circonscrit et d'un avenir individuel devient l'annonce messianique d'une nouvelle cité du soleil, Eliaca. Campanella se lance dans une opération de transmission qui ressemble à ce qu'il avait fait avec le personnage de Christophe Colomb. Tout comme Colomb lui servait à asseoir sa propre légitimité et son propre statut d'homme libre, détaché des autorités intellectuelles et politiques, le personnage du dauphin lui permet de se comparer à l'enfant royal et de lui transmettre son destin messianique. Tous deux sont nés le même jour. Campanella fête ses 70 ans, le jour de la naissance du futur Louis XIV. Et qui plus est, ils sont tous les deux nés un dimanche. Les vers mêlent ainsi, sans solution de continuité, le passé autobiographique et l'avenir des annonces prophétiques concernant la vie du destinataire. Par là même, il confirme dans un même mouvement la mission de l'auteur, celle du destinataire et enfin celle du texte. En outre, ce texte étant évidemment pensé sur le modèle des églogues virgiliennes, qui avaient été traditionnellement relues comme un texte prophétisant la venue du Christ au temps du règne d'Auguste, une autre analogie à deux visages émerge, d'une part entre le plus grand des poètes latins et Campanella, d'autre part entre Louis Dieudonné et Auguste. Rien d'étonnant donc à ce que Louis nous soit proposé au fil de la lecture comme le fondateur d'Héliaca, la vraie cité du soleil, dont je remarquerai quand même qu'elle est ramenée en Europe et non plus dans les lointaines mers de l'océan Indien. On y retrouve pêle-mêle tous les thèmes chers à l'auteur. Vibrant de l'espoir du siècle d'or annoncé, le verbe du dominicain proclame la future réunion de l'humanité dans une seule famille chrétienne, avec la paix universelle, évidemment, qui s'en suivra. Les glorieuses entreprises du roi conduiront en effet à la libération de l'Italie, puis de la Grèce et de Jérusalem. Et les Espagnols dansent tout cela. Les Espagnols sont renvoyés à la mission qui doit être essentielle pour eux, qu'il leur reste, la mission d'évangélisation. La France construit une hégémonie européenne qui relève d'un nouvel impérium continental, tandis que l'Espagne est renvoyée à sa mission d'outre-mer, d'évangélisation, qui ébauche un nouvel empire que l'on dira bientôt colonial.